Dans la situation actuelle, il est clair qu'on gère l'urgence en ce moment.
Ce qui a été dit notamment par Jean-Luc Mélenchon, c'est que la climatisation ne peut pas être l'horizon.
Les cultures maraîchères, certains étés, vont brûler sur place. On nous explique que les vaches laitières sont en stress thermique à partir de 25 degrés, qu'elles ne pourront pas rester au pré l'été, qu'elles vont être en souffrance, qu'elles produiront moins de lait. Et donc ça, la clim n'y réglera pas grand-chose. On ne va pas climatiser toutes les vaches et les salades.
Le sujet, c'est vision à court terme ou vision à long terme. Vision à long terme, la clim ne peut pas être une bonne réponse.
Des jupes masculines, je veux dire, ça peut paraître un peu choquant dit comme ça, mais finalement, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour faire circuler l'air.
C'est en fait cette espèce de déresponsabilisation totale de l'État.
La climatisation, ça pouvait avoir son importance. C'était quand même la mesure la plus efficace, la moins chère, la moins coûteuse.
Mais une fois encore, le gouvernement semble dépassé par les événements. Il a bien un plan contre la canicule, mais pas de quoi le financer. Et dans le même temps, il veut remettre sur le marché du logement locatif les bouilloires thermiques. C'est ce qui s'appelle avoir le sens du tempo. On regarde ça dans ce Bourbon de Serge numéro 155. Deux Français sur trois estiment que le gouvernement gère mal la séquence climatique que nous traversons. Ce n'est pas moi qui le dis, mais un sondage de l'Institut Elab pour BFM Télé. Il aura suffi d'une semaine pour que le sentiment que le pays n'est pas prêt à affronter la canicule devienne majoritaire. Pourtant, à l'Assemblée nationale, hier mercredi, Monique Barbu, qui est, comme tout le monde l'ignore, la ministre de la Transition écologique, affirmait que l'adaptation au changement climatique était lancée.
En matière de lutte contre le dérèglement climatique et plus spécifiquement contre les vagues de chaleur, il n'y a pas une formule qui fonctionne. Il y a un certain nombre d'actions à mettre en œuvre. Et il va falloir effectivement passer à un plan massif. Car ce que nous vivons aujourd'hui, nous savons que d'ici 2050, ces vagues de chaleur pourraient être multipliées par 5 par rapport à celles qu'elles sont aujourd'hui. Alors, dans la situation actuelle, il est clair qu'on gère l'urgence en ce moment. Je pense aux hôpitaux, je pense aux écoles, je pense aux EHPAD. Mais que clairement, dans le même temps, tous nos efforts doivent être concentrés sur quelles vont être nos politiques d'adaptation publiques et aussi celles qu'on va demander à mettre en œuvre dans le privé. Nous avons effectivement un plan national d'adaptation. Nous avons, avec M. Jean Brun, il y a une semaine, présenté l'état d'avancement et montré que 85% de ce plan était en cours d'avancement. Il y a aussi une trajectoire. Alors, ça paraît anecdotique de parler de trajectoire, mais cette trajectoire, elle est dans le code de l'environnement. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tous les investissements publics doivent s'inscrire dans cette trajectoire. C'est-à-dire qu'il faut construire des rails de chemin de fer qui prennent plus 4 degrés en 2100, qu'il faut construire des logements suivant des modalités qui n'étaient pas celles inscrites. Tout cela doit se faire. Effectivement, ça prend du temps. En outre, vous évoquez un point qui est extrêmement important, c'est que l'adaptation, certes, c'est une politique nationale, mais elle ne peut exister que dans les territoires. Ce que nous ferons en territoire de montagne, ce n'est pas ce que nous allons faire en territoire de littoral.
Ce plan national d'adaptation au changement climatique, le voici. Il s'agit du PNACC, P-N-A-C-C. On en est à la troisième version. Ce plan est assez pertinent. Il passe en revue l'ensemble des conséquences d'une élévation de 4 degrés des températures en 2100. Pourquoi 4 degrés ? Parce que c'est un chiffre qui correspond aux projections du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Le gouvernement a donc un plan. Réjouissons-nous. Et ce, d'autant plus que 85% de ce plan est en cours d'avancement. Tout va bien donc. On peut retourner se coucher. Merci d'avoir regardé cette chronique. Je vous dis à la semaine prochaine. Stop, 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 stop. J'aimerais qu'il en soit ainsi, car vous vous en doutez, il y a de l'enfumage dans l'air. Le sénateur écologiste Thomas Dossu me l'a confirmé hier à l'occasion d'une conférence de presse sur la canicule, car il se trouve que les écologistes ont participé à l'élaboration de ce plan.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre quand on lit dans le détail le plan, le PNACC 3, le troisième plan, c'est un plan qui fait beaucoup de réglementaires, qui dit en gros, dans X années, il fera plus 4 degrés, donc adaptons tous nos plans d'urbanisme, nos plans, les règlements d'architecture, etc., à cette donnée, ce qui est assez compliqué déjà, mais on l'a critiqué dès le départ, nous, parce qu'il n'y avait aucune trajectoire financière adossée. C'est-à-dire qu'on avait une belle injonction, et honnêtement, c'était un moment de lucidité d'avoir intégré cette trajectoire à plus 4 degrés, parce que c'était aussi prendre acte d'une forme d'inaction pour atténuer les choses, et donc de comprendre qu'on allait vraiment dans une trajectoire très compliquée à vivre. Mais en revanche, il n'y avait pas la responsabilité budgétaire derrière, puisque ce plan n'est absolument pas budgété. Et c'est un des enjeux aujourd'hui. On voit bien que les collectivités ou même les bailleurs vont avoir besoin de financement. Et ça, c'était le pilier qui manquait à ce plan national d'adaptation qu'on a cessé de demander.
Et pourquoi n'y a-t-il pas de budget? Parce qu'on l'a supprimé dans le cadre des économies budgétaires. Pour soutenir les collectivités territoriales dans leurs investissements au service de la transition écologique, le gouvernement a créé en 2023 le Fonds vert. Il a déjà permis de soutenir 25 000 projets. En 2024, son enveloppe annuelle était de 2,4 milliards d'euros. Elle est tombée à 837 millions pour 2026. Et encore 162 millions d'euros sont-ils menacés d'être gelés dans les semaines qui viennent. Au moment où il faut accélérer la transition écologique, le gouvernement réduit drastiquement la voilure. Bravo les artistes! La dette de la France est certes un vrai problème, mais la viabilité de la planète est une question autrement préoccupante. À moins que l'on compte réduire le déficit en transformant l'Hexagone en désert.
Les écologistes, ce qu'ils ont dit dans les années 70, c'est qu'avant de s'occuper de s'adapter, il fallait éviter le problème. Éviter le changement climatique, on n'a pas réussi, parce qu'on n'a pas été écouté. Là, on essaye d'atténuer le changement climatique. Ça ne va pas suffire non plus. Et donc l'adaptation, qu'on a toujours mise en œuvre par des végétalisations, des villes, etc., elle devient indispensable. Et la clim, qui n'était pas nécessaire il y a quelques années, le devient. Est-ce que ça règle tout? Non. Quand vous aurez des pics à 45-50 degrés, ça va arriver dans quelques décennies en France. Vous n'allez pas vous balader avec un climatiseur portable autour du cou. Et donc, je le dis, dans le plan national d'adaptation au changement climatique, on nous explique quand même qu'en France, dans pas très longtemps, les cultures maraîchères, certains étés, vont brûler sur place. On nous explique que les vaches laitières sont en stress thermique à partir de 25 degrés, qu'elles ne pourront pas rester au pré l'été, qu'elles vont être en souffrance, qu'elles produiront moins de lait. Et donc ça, la clim n'y réglera pas grand-chose. On ne va pas climatiser toutes les vaches et les salades. Et donc, on est obligé de se dire la priorité reste encore le fait d'atténuer le changement climatique, parce que juste la planète va finir par ne plus être habitable en réalité.
Cette nécessité de s'adapter au changement climatique est assez partagée sur les bancs de l'Assemblée.
Ce qui a été dit notamment par Jean-Luc Mélenchon, c'est que la climatisation ne peut pas être l'horizon. Et il a bien raison, c'est une fuite en avant mortifère. Voilà. Et donc, je vous le redis, aujourd'hui, nous sommes pour une sortie des bouilloires thermiques qui frappent avant tout les classes populaires. Bouilloires thermiques que le gouvernement et l'extrême droite proposent de maintenir en l'état. Parce que c'est ça la proposition qui va être faite demain.
Aurélie Trouvé fait référence au projet de loi sur le logement qui a été présenté hier mercredi en Conseil des ministres. Ce texte prévoit d'autoriser à nouveau la location des logements dont le diagnostic de performance énergétique leur interdit de rester dans le marché locatif. Il s'agit des logements classés G et F. Le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, veut éviter la mise à l'écart de 700 000 logements en accordant aux propriétaires un délai de 3 à 5 ans pour réaliser les travaux d'amélioration énergétique. Un répit plutôt malvenu dans le contexte caniculaire. Quoi qu'il en soit, un plan d'envergure reste nécessaire. Le débat sur la climatisation n'est que l'arbre qui cache la forêt. C'est ce qu'explique le président du groupe communiste, Stéphane Peu.
Le sujet, c'est vision à court terme ou vision à long terme. Vision à long terme, la clim ne peut pas être une bonne réponse. C'est la raison pour laquelle il faut une planification écologique sur les bâtiments. Bon, bien sûr, à court terme, le sujet est d'avoir des lieux climatisés dans les écoles, dans les EHPAD, enfin là où il y a notamment le plus de personnes vulnérables, c'est une bonne chose. Mais par exemple, alors qu'il y a des ruptures de climatiseurs partout dans les commerces, on aurait pu imaginer, ça s'est fait au moment du Covid, une réquisition des climatiseurs pour aller les attribuer là où il y avait les personnes les plus vulnérables. Je pense notamment aux hôpitaux, aux EHPAD et éventuellement à un certain nombre d'écoles. Mais comme on est dans le jeu, chacun se débrouille, aucune organisation de l'État, ça n'a pas été fait.
S'adapter au changement climatique, c'est d'ailleurs ce qu'a fait l'Assemblée nationale mardi. Les agents ont été autorisés à tomber la veste et porter des chemises à manches courtes, comme les députés.
Il faut se dire qu'aujourd'hui, le Parlement, vous voyez bien, n'est pas climatisé dans son entièreté. Et donc si dans l'hémicycle, la température est plus fraîche, tout pour y aller est extrêmement chaud. Et je vois bien qu'ici, quasiment plus personne n'a de veste autour de moi. Donc il faut arrêter, en fait, avec ces codes vestimentaires de l'avant-réchauffement climatique. Il faut faire évoluer le vestiaire masculin notamment, parce que c'était les hommes en particulier qui avaient cette obligation de port de veste et de cravate. Il faut le faire comme on le fait dans la plupart des parlements modernes, confrontés à ces vagues de réchauffement climatique et qui ne sont pas intégralement climatisés. Voilà, donc je crois que c'est un impératif. Il faut peut-être même réfléchir à aller encore plus loin, sans pour autant se balader en tongs. Mais voilà, je crois que c'est aussi nos représentations collectives qui doivent évoluer de ce point de vue. Moi, je suis pour polo short dans l'hémicycle. Alors évidemment, il y a des très beaux shorts en lin très classe. Mais voilà, ou la jupe à la fidjienne. Vous savez, vous avez des costumes où les Indiens, ils ont des jupes masculines. Je veux dire, ça peut paraître un peu choquant dit comme ça. Mais finalement, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour faire circuler l'air.
Vous constatez, comme toujours, quand vous avez deux socialistes, vous avez trois positions. Parce que moi, vous constatez que je ne suis pas tout à fait sur les mêmes Carter de la porte, mais ça ne nous empêche pas de nous entendre très bien.
Les socialistes qui redeviennent des sans-culottes à la faveur du changement climatique. On ne va pas s'en plaindre. Mais au-delà de la gaudriole, ils ont aussi un point de vue sur la gestion de la canicule par le gouvernement.
Les canicules, elles se répètent, elles augmentent et elles sont de plus en plus précoces dans l'année. C'est ce qu'on observe. Là, on est déjà à notre deuxième canicule avec des niveaux de température jamais atteints à cette saison de l'année. Donc on a évidemment des gouvernements qui sont à la ramasse totale. On avait un président de la République qui disait « Make our planet great again » avec l'accent en 2018. Bon, et bien aujourd'hui, on est dans une situation où, depuis quelques années, notamment sur le second quinquennat, c'est recul sur la question environnementale. C'est définancement après définancement. On avait vraiment réussi de sanctuariser dans le budget le fonds vert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par couper dans les budgets du fonds vert il y a de ça un mois et demi. C'est totalement irresponsable. Donc oui, il y a évidemment eu des apprentissages en termes de gestion de crise, etc. Mais c'est pas suffisant et on le voit aujourd'hui. Comme c'est de plus en plus précoce, ça touche les écoles, ça touche les crèches. Et donc, c'est plus simplement les EHPAD qui sont touchés. Hier, c'est des enfants qui s'évanouissent dans les écoles à cause de la chaleur. C'est des enfants qui rentrent chez eux et qui vomissent. C'est ça, la réalité.
Il n'y a qu'au Rassemblement national qu'on pense que la seule climatisation permettra de s'adapter au réchauffement climatique. Les taches de sueur sur la chemise de Philippe Ballard semblent plaider en ce sens.
Je pense qu'il n'y a, a pas eu de prise de conscience, oui, que la climatisation, ça pouvait avoir son importance. C'était quand même la mesure la plus efficace, la moins chère, la moins coûteuse à mettre en place pour éviter que dans les EHPAD, on souffre de cette canicule, dans les écoles, puis même dans les services publics, dans les trains. On a toujours des trains corail qui circulent, qui datent des années 80. Et puis moi, j'ai écouté Mme Tondelier, donc la secrétaire nationale des Verts, qui nous dit « Écoutez, chez moi, j'ai fait des travaux d'isolation. Au siège du parti, on a fait là aussi des travaux d'isolation. Mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Donc si les écologistes considère que la clim, c'est mieux que l'isolation, je pense que il n'y a plus débat à l'arrivée. À chaque fois, on nous dit c'est de l'air chaud qui part dehors. Ça a été calculé dans beaucoup de pays, au Canada, au Japon et en Corée du Sud. C'est 0,0001 degré en plus, donc c'est rien du tout. Par contre, ça sauve des vies. Donc on fait le choix, soit on réchauffe, mais c'est même pas à la marge la température dehors, soit on sauve des vies. Nous, on fait le choix, on sauve des vies.
L'ennui, c'est que lors de la dernière discussion budgétaire, le Rassemblement national a déposé un amendement pour réduire de 400 millions d'euros l'enveloppe déjà rikiki du fonds vert. Et entre autres dépenses financées par le dit fonds, il y a la climatisation des écoles. Comme disait Dostoïevski, le RN, c'est clim et châtiment. Pour l'heure, c'est surtout la désorganisation qui prévaut. L'État est aux abonnés absents. Écoutez le témoignage de Constance de Pellichy.
Depuis le début de la semaine, j'ai tous les maires de ma circonscription très régulièrement au téléphone. De fait, on a des salles de classe dans lesquelles cet après-midi, on dépasse largement les 35 degrés. C'est pas possible. Mais surtout, ce que la plupart nous expriment, c'est en fait cette espèce de déresponsabilisation totale de l'État. Ils ont eu un point avec les services de l'État en fin de semaine qui s'est soldé par « c'est vous les décisionnaires, vous faites comme vous le sentez ». Mais on n'a pas de protocole. On n'a pas, par exemple, de seuil de température intérieure qui déclencherait un certain nombre de mesures et de mesures graduelles. Peut-être qu'on peut tout simplement commencer par là, déjà. Le temps d'équiper l'intégralité des écoles, des EHPAD, des hôpitaux, des meilleurs systèmes de fonctionnement, il nous faudra de toute façon plusieurs années. En revanche, ce que je vois aussi, c'est que Bercy gèle les crédits du Fonds vert qui permettent d'adapter nos écoles. Le RN dépose des amendements pour couper le Fonds vert. Lui qui dit qu'il aurait fallu écouter le GIEC bien plus tôt. Faut arrêter la démagogie, en fait. Faut arrêter l'incohérence totale. On a besoin d'adapter nos bâtiments publics. C'est une réalité. Mais on a aussi besoin de process quand on a des événements exceptionnels qui se produisent.
Si l'exécutif pense que la canicule est un simple épisode que les citoyens oublieront dès que les températures baisseront, il se trompe. Car vont surgir dans quelques jours les conséquences de ce dérèglement climatique, une crise de l'eau et une crise de l'agriculture. Il est temps d'arrêter la gestion à la petite semaine. Merci d'avoir regardé cette chronique qui a été mise en ligne tardivement en raison d'un enregistreur qui nous a lâché la canicule. Si vous l'avez apprécié, non pas l'enregistreur, mais la chronique, partagez-la et mettez un pouce. Et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Pour nous soutenir financièrement, c'est sur DonorBox que ça se passe. Vos dons constituent le seul exemple probant de ruissellement à ce jour. Ils permettent à cette chaîne d'exister et de se développer. Soyez-en remerciés. On se retrouve lundi pour un Pôle Express.